Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Les clés d'une vie, celle de mon invité. Une histoire d'avion est à l'origine de votre envol à Hollywood. Un univers complexe, mais beaucoup moins angoissant que le thriller que vous signez aujourd'hui. Bonjour René Manzor.
Bonjour.
Alors, il y a ce thriller qui sort chez Calman Levy, à vif, on va en parler. Et on va parler de vous parce que finalement, on vous connaît peu en France, beaucoup plus à Hollywood. C'est un destin assez particulier. On va le faire à travers des dates clés. Et puis, René Manzor, on va tout de suite dire, c'est pas votre vrai nom. Vous êtes René Lalanne.
Ah, c'est le nom de ma maman.
Exactement. Et vous êtes le frère de Francis et le frère de Jean-Félix, qu'on connaît bien à Sud Radio.
Absolument. Voilà.
Mais vous, on vous connaît moins et on va vous connaître à travers des dates clés. La première ne vous concerne pas directement, mais indirectement, c'est le 8 avril 1932. C'est la sortie de ce film. M le maudit. Car M le maudit, je crois que c'est à l'origine de votre carrière, René Manzor.
Absolument, ouais. J'ai regardé ce film un soir que mes parents étaient allés au restaurant. C'était le ciné-club de Claude Jean-Philippe le soir, et donc ça m'a vraiment marqué, effectivement.
Alors ce film, qu'on connaît peu aujourd'hui, est inspiré d'un fait divers authentique. C'est un certain Peter Kirtan qui aurait tué pour la première fois à l'âge de 9 ans, qui a ensuite tué 20 personnes et qui a été arrêté en 1930 et guillotiné ensuite. Et je sais que ce film a été censuré par Goebbels et par Hitler parce que c'était le symbole de l'art dégénéré.
Absolument. Ouais.
Et pourquoi ce film vous a marqué, René Manzor ?
Je sais pas, déjà, M.
Comme vous.
Voilà. Non, c'est parce que c'est l'expressionnisme allemand, en fait. C'est ce mouvement, en fait, qui reprenait ce mouvement de la peinture. Moi, j'ai fait les Beaux-Arts, j'ai cette formation, en fait. Je suis venu au cinéma très tard, en fait. Très tard. Enfin, assez jeune, quand même. J'avais 25 ans, mais j'avais un parcours avant dans le dessin animé.
Oui,
c'est ce mouvement expressionniste allemand, d'ailleurs, que j'ai repris dans la façon dont j'ai travaillé mes dessins animés dans Le Passage, notamment, ce côté noir et blanc assez dur, comme ça, clair-obscur. Et donc, voilà, ce film, c'était un peu la découverte de ça aussi.
Oui, en plus, le Ciné-Club, c'était à minuit. Ça avait été lancé par Patrick Brion parce qu'il n'y avait plus de films sur France 3 le week-end en accord avec les salles de cinéma, et c'était vraiment des classiques en noir et blanc qui ont marqué votre jeunesse.
Ah non, c'était pas le cinéma de minuit, c'était le ciné-club Claude Jean-Philippe,
oui.
Ouais, qui était sur la deuxième chaîne.
Voilà,
en fait.
Et qui était juste avant.
Oui, c'était juste avant, mais c'était le même principe, en fait, c'est-à-dire découvrir des films du patrimoine, en fait.
Alors, vos origines, René Manzor, bon, on a parlé de Jean-Félix et de Francis, mais il y a une famille quand même cosmopolite, avec des grands-parents maternels libanais, des grands-parents béarnais et basques, un père qui travaille au Moyen-Orient pour les Nations Unies, et vous êtes né à Mont-de-Marsan.
Oui, c'est ça.
Total,
moi, je suis la pochette surprise.
Voilà. Et c'est vrai que Mont-de-Marsan, c'est là où vous avez grandi ?
Oui, c'est là où j'ai passé ma petite enfance. D'abord, on a vécu en Uruguay. Donc maman est sud-américaine et moi j'ai appris le français à l'école. Quand je suis revenu d'Uruguay, on m'appelait le petit espagnol à l'école. Donc c'était intéressant de connaître le racisme dans son propre pays.
Et justement, parce que votre mère s'appelle Manzor et que ne vous vouliez pas être le troisième des Lalanne, vous avez choisi ce pseudonyme.
Alors c'est plus intéressant que ça. C'est, en fait, c'est une, quand on était petit, on voulait tous faire du spectacle, les trois frères. Et donc c'est Francis qui a dit, comme il fait les règles toujours quand on joue au jeu de société, il commence par déchirer la règle et puis il refait la règle. Et donc il a dit... En gros, le premier qui réussit à accomplir ses rêves, il prend le nom de papa. Le deuxième prend le nom de maman. Et le troisième reprend le nom de papa. Et donc, on a fait exactement ça.
Voilà, parce que vous êtes le deuxième de la famille entre Jean-Félix et Francis. Alors, vous avez aussi eu votre mère comme première auditrice de vos contes quand vous aviez 10 ans, René Manzor.
Oui, en fait, c'est assez spécial. C'est que quand maman me lisait des histoires, mettons, au chevet du lit, je lui disais, mais non, raconte-moi tes histoires. Ferme le livre, raconte-moi tes histoires. Et donc, un jour, elle m'a dit « Mais raconte-toi ». Et donc, je me suis mis à raconter. C'est devenu une espèce de rituel entre nous. Et en fait, quand je racontais les histoires, elle s'endormait. Et donc, j'ai commencé très tôt à essayer de trouver des surprises, des twists, comme on dit aux États-Unis, de façon de faire rebondir l'histoire pour essayer de la garder plus longtemps. Et puis, je faisais des progrès tous les jours.
Et ça vous passionnait depuis toujours, raconter des histoires ?
Ouais. C'est-à-dire, quand mes frères faisaient de la musique, j'en faisais aussi, mais c'était plus pour jouer avec eux. Mais moi, je le disais à mes parents, tu peux pas me trouver un prof d'écriture, je voudrais un prof d'écriture. C'est ça qui...
C'était
qui...
inné chez vous.
Ben, en tout cas, l'envie était là. L'envie était là.
Alors, ouais. C'est pas forcément, au départ, de votre père et de votre mère, l'origine. Ils n'ont pas de métier de spectacle.
Maman était extrêmement bonne au piano. Elle avait des prix de conservatoire de piano. Et donc, c'était un peu d'elle que vient notre désir de faire du spectacle, en fait.
Et au départ, René Manzo, vous voulez devenir peintre, mais votre père n'est pas d'accord.
Oui, c'est-à-dire que mon père, ben, comme tous les parents, il dit faut que tu fasses un vrai métier. C'est-à-dire que peintre, c'était pas un vrai métier. Et en même temps, il m'a aidé, par exemple, à construire ma première machine de prise de vue quand je faisais du dessin animé. Oui. Et là, c'est devenu quelque chose entre nous qui a fait bâtir quelque chose de spécial. C'est-à-dire qu'il m'a accompagné quand même dans la création.
Oui, mais au départ, il voulait que vous fassiez un métier sérieux. Donc, vous avez fait vos études de médecine, mais les beaux-arts en même temps, ce qui est assez rare. Comment on fait ?
C'est-à-dire que c'était à la fac de Lumini, à Marseille, Lumini, et la fac de médecine était en face de la fac des beaux-arts. Donc en gros, je faisais la médecine pour mes parents, pour faire un vrai métier, et je traversais pour faire le mien, en fait. En fait, les cours, on choisissait un petit peu ses horaires, et donc, voilà, j'avais trouvé une solution pour à la fois faire... enfin, c'est beaucoup de travail, hein, quand même.
Oui, mais l'administration était d'accord pour que vous fassiez les deux,
Bah, j'étais en auditeur libre, en fait, aux Beaux-Arts. Et j'étais inscrit à la fac de médecine.
Et la médecine, ça vous a jamais intéressé vraiment, sauf pour les films?
Bah, c'est-à-dire que la première année, on ne fait que des maths. Vous voyez, on ne voit pas un malade. Enfin, donc c'est un peu le problème de la médecine en France, d'ailleurs, dont on voit les effets néfastes aujourd'hui. Oui.
Alors, il y a un livre qui vous marque au départ, René Manzor. Ça s'appelle « Le dessin animé d'amateur » d'un certain Serge de Marquis, ou Marchi, qui est un peintre d'Aix-les-Bains.
Alors, Serge de Marchi, en fait, c'était celui qui avait écrit ce livre. Et avec mon père, on a construit ce qu'on appelle une multiplane. C'est un banc-titre, en fait. C'est une machine de prise de vue. La caméra est au-dessus. J'avais une vieille Paillard Bolex 16 mm, où, vous savez, il y a la manivelle où on tend le moteur. Et donc, on a entretenu avec lui une espèce de relation épistolaire en lui posant des questions par rapport à son livre, parce que le livre était un livre de vulgarisation. Et nous, on essayait vraiment de construire la machine. Donc, cette relation est devenue finalement, on s'est rencontrés, et donc c'est lui qui finalement a été mon premier parrain, disons, dans le milieu du cinéma.
Vous aviez trouvé ce livre par hasard ?
Complètement, oui. Par hasard, oui.
Il était même étonné que quelqu'un lui écrive et lui parle de ce livre, je crois.
Absolument, oui, absolument. On a fini par faire des conférences ensemble sur le dessin animé, c'est ça qui est fou.
C'est fou. Et alors, il y a quelqu'un qui vous a aussi beaucoup aidé, c'est un génie du dessin animé qui s'appelle Paul Grimaud, René Manzor.
Absolument. Alors, Paul Grimaud, c'était une aventure formidable, c'est que j'avais fini mon dessin animé Synapse, qui est mon premier court-métrage. Je l'avais fini en 16 mm, donc avec la paillarde que j'avais. Et je suis allé le voir à Rue Bobillot, dans ses studios.
À Paris, oui.
À Paris, avec les 3000 dessins que j'avais pour mon dessin animé. Et donc, il m'a ouvert la porte, il a vu les cellulos, vous savez. Et donc, il m'a dit, c'est quoi ça? J'ai dit, ben, c'est mon film. Je l'ai tourné en 16 et j'aimerais bien le tourner sur un vrai banc-titre professionnel. Est-ce que vous m'autorisez à le faire chez vous? Et à ce moment-là, il m'a tutoyé tout de suite à l'après-verre, et il m'a dit « Tu sauras te servir d'un banc-titre ?» Et je lui ai dit « Ah non, mais je peux apprendre. » Et donc, toutes les nuits, là-bas, j'apprenais à me servir de ce banc-titre, et je tournais, et c'est chez lui, finalement, que j'ai tourné Synapse, en 35 mm, avec son banc-titre, et grâce à lui, finalement, j'ai débuté dans ce métier, puisque j'ai eu le Grand Prix hier, avec ce film,
oui,
qui n'aurait jamais pu voir le jour si Paul Grimaud ne m'avait pas accueilli chez lui.
Et il faut dire que vous avez eu ce Grand Prix hier, que vous avez eu d'autres prix, mais jamais un prix pour des films d'animation, alors que c'est un dessin animé.
Exactement, oui. C'était la première fois, d'ailleurs, qu'hier, on donnait le Grand Prix à un court-métrage d'animation. J'étais pas sélectionné à Annecy, j'étais pas dans les festival, et d'un coup, ça a été un peu un signe pour moi. de se dire, est-ce que c'est vraiment... Pourquoi tu es sélectionné dans les festivals de cinéma et non pas de dessin animé?
Alors, il faut savoir que Paul Grimaud, pour celles et ceux qui l'ont oublié, il avait au départ réalisé La Bergère et le Ramoneur, qui est un dessin animé formidable, ouais, qui est tombé complètement dans l'oubli, qui n'a pas pu se faire financer jusqu'à la fin. Il en a fait avec Jacques Prévert Le Roi et l'Oiseau, qui lui a valu le prix Louis Deluc, un César d'honneur, et on le considère comme un maître, notamment au Japon, où tous les réalisateurs au Japon le considèrent comme le maître du dessin animé en France et dans le monde. Je ne sais pas si vous le savez.
Absolument, oui, c'est vrai.
Et on le connaît mal, finalement.
Moi, je le connais bien.
Oui, oui, mais le grand public l'a oublié.
Ouais, ouais, ouais.
Alors, finalement, en plus, il y a quelqu'un... Le dessin animé, à l'époque, n'est pas considéré comme aujourd'hui. Quelqu'un comme Jean Image, que vous connaissez peut-être,
oui,
aussi,
bien sûr,
qui a fait Kiri le clown.
Oui.
Totalement oublié aujourd'hui.
Absolument.
Comment vous expliquez ça, René Manzor?
Je ne sais pas. Je pense que c'est juste une question de culture générale. Hein, oui. C'est quelque chose qui est dans notre patrimoine. Et il y en a qui aiment le patrimoine, il y en a qui le fuient.
Alors, il y a une autre forme de patrimoine, c'est Frankenstein. Et vous avez réalisé ensuite un film, Le suicide de Frankenstein. Frank, le prénom Einstein, qui est le fils d'Albert Einstein, je crois, et de la bombe atomique. Et il devait faire 4 minutes 45 très exactement.
Oui, c'est une productrice de chez Gaumont qui m'a approché après avoir vu Synapse. Et qui m'a dit, qui s'appelait Marie-France Trémège, et elle m'a dit, est-ce que ça vous dirait de faire un film en prise de vue réelle? Mais on a besoin d'un complément de programme pour Fanny et Alexandre, le film de Bergman, et donc on a besoin d'un programme qui ferait 4 minutes 45, est-ce que vous pouvez le faire? J'ai dit, bien sûr. Donc voilà, et donc j'ai écrit cette histoire, comédie fantastique, qui s'appelle Le suicide de Frank Einstein. Oui, absolument.
Qui est le fils d'Albert Einstein.
Et de la bombe atomique, oui, voilà. Ils ont eu un fils ensemble.
Mais C'est totalement fou. Le public peut comprendre ce genre de choses. Vous avez eu des remontrances au départ, René Manzor?
Non, j'ai pas eu de remontrances, mais j'ai tourné ça en noir et blanc, un peu comme à la manière de James Whale.
Oui.
Et il y a un plan d'effet spécial à la fin où le Frankenstein finit par se suicider. Et on a fait ce plan avec mon père dans le garage en faisant sauter une tête remplie de tripailles. Et il y a encore sur le plafond tous les restes qu'on n'a pas pu enlever.
Et la médecine dans tout ça?
Ah bah la médecine, en fait, j'ai arrêté en deuxième année.
Voilà.
Et parce qu'il y avait une autre passion qui grimpait, hein, qui était celle du cinéma.
Ben voilà, et ça a continué. On en parle dans quelques instants à travers une autre date, le 25 novembre 1986. À tout de suite sur Sud Radio avec René Manzor.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité René Manzor. Il y a ce livre, ce thriller à vif chez Calman Lévy, dont on va reparler tout à l'heure. Mais là, il y a une date importante dans votre vie, vous n'en conservez peut-être pas le souvenir, c'est le 25 novembre 1986, c'est votre première télé dans cette émission. Monsieur Cinéma de Pierre Tchernia et Jacques Roulant, et vous êtes interviewé pour cette émission, pour le film Le Passage. Vous en souvenez?
Pas du tout.
Et ben voilà, c'est votre première télé. Est-ce que vous avez passé rarement à la télé en France,
oui,
finalement?
Oui, absolument, oui.
Et là, il y a un jeu Monsieur Cinéma. D'ailleurs, il y a un candidat qui passe, qui s'appelle Monsieur Dufour, qui est serrurier à Orléans, et qui a noté sur un cahier les détails de près de 50 000 films. Il connaît toutes les distributions par cœur. Il gagne toujours. Et vous racontez, vous évoquez ce film qui va sortir, Le Passage, avec Alain Delon, je crois que c'est un face-à-face entre un créateur de dessin animé, ça tombe bien, ouais, et la mort.
Oui, c'est ça, oui.
Et comment
alors,
vous
l'avez l'extrait en question là?
Ah bah, il existe en tout cas sur l'INA.
Ah, c'est incroyable, incroyable.
Et pourquoi ce film, pourquoi cette idée de passage entre la vie et la mort, René? Bah,
c'est un thème qui m'a toujours titillé. Hein. C'était pas l'idée de la mort qui m'angoisse, c'est juste le fait de pas pouvoir en revenir. Vous voyez, quand je prends un billet, je prends le retour aussi. Et donc quelque part, je me suis dit, est-ce que je ne ferais pas une fable là-dessus, c'est-à-dire une fable qui parlerait du fait que le deuil n'est pas, la mort n'est pas la fin. Il y a une possibilité de rencontre après. Et donc, j'ai écrit cette histoire d'amour entre un père et un fils avec une séparation due à un accident. Et donc, c'est une fable, en fait, sur le fait, est-ce que la mort est une vraie séparation ou pas.
Alors, pour convaincre les producteurs, vous avez fait un pilote, ce qui est rare à l'époque, qui s'appelle Le Sang, René Manzor.
C'est ça, Le Sang ou Le Testament d'un vieux fou. Et en fait, l'idée, c'était de montrer comment seraient les scènes d'animation dans le passage. Car les gens, quand je parlais de dessin animé, ils voyaient tout de suite des petits lapins, des souris, enfin, ils avaient l'image Walt Disney dans la tête. Et moi, c'était quelque chose de très réaliste. C'était déjà des hommes qui étaient dans les séquences d'animation, et puis c'était des faits divers. Donc c'était le créateur, donc Jean Diaz, dans le film, qui dénonçait finalement la violence dans le monde. Et donc, dans Le Sang, justement, il partait du principe que si le sang s'arrêtait plus de couler, au bout d'un moment, l'homme serait obligé de mettre un terme à cette violence. Donc c'est ce qui se passe dans Le Sang, c'est-à-dire que les gens qui sont blessés continuent de saigner jusqu'à provoquer un déluge, en fait.
Alors, ce film, ça vous a permis, effectivement, de rencontrer d'autres producteurs pour le grand film. Ça a duré des années, tout le monde vous fermait les portes, René Manzor.
Oui, ça a duré 6 ans, en fait. 6 ans de parcours du combattant, mais qui est un peu un parcours classique, hein, pour ceux qui veulent faire ce métier. Beaucoup se découragent, il y a de quoi.
Tutsi, ça a mis 10 ans à se monter, personne n'en voulait.
Ouais.
Et là, au bout de 6 ans, je crois que vous vivotez en faisant du montage en attendant.
Oui, je faisais du montage, j'ai monté, et même après d'ailleurs, après le passage, parce que malgré le succès du passage, c'est un succès qui m'a coûté. Mais oui, j'étais monteur, donc je travaillais chez Eurocitel, en fait, à faire des bandes-annonces.
Voilà. Et il y a quelqu'un qui vous a aidé, et le déclic s'est produit pour ce film, grâce à Francis Lalanne, votre frère.
Ah bah oui.
Qu'est-ce qu'il a fait?
C'est-à-dire qu'un jour, il me voyait faire mes dessins animés, etc., et puis donc galérer, hein, un peu dans la vie. Et donc, il me disait, mais qui tu veux dans ton film? Parce que j'avais déjà écrit le scénario, j'avais le pilote. Il me dit, qui tu veux dans ton film? Je lui dis, Alain Delon. Genre pour arrêter l'hémorragie tout de suite et qu'il me lâche quoi. Je voulais pas qu'il s'en mêle. Lui, il avait du succès en tant que chanteur, etc. Et puis voilà, j'avais pas envie de. Ah, il me dit ok. Dire quoi ok? Et donc il a été frappé donc au bureau d'Alain Delon et il a rencontré, comme en plus c'était quelqu'un de connu, il avait accès en tout cas aux gens qui s'occupaient d'Alain. Et donc, il leur a donné le scénario, il leur a montré le pilote qui faisait 10 minutes et qui un peu montrait quand même ma puissance de tir en tant que créateur, en tout cas visuel. Et ils ont été assez impressionnés par les images qui sont originales, surtout à l'époque, quand on se remet à l'époque. Et donc, ils ont lu le scénario. Et Francis leur a dit, voilà, nous, c'est Delon producteur qu'on vient voir. Il n'y a pas de rôle pour lui là-dedans. Ça a été ça,
le piège.
Ouais.
Et alors?
Eh bien alors, après, donc, ils ont fait lire à Alain et il est revenu en disant « C'est pas un rôle pour moi, ça
!» Voilà. Et vous auriez dit l'inverse, ça n'aurait pas marché.
Je sais pas.
Il faut savoir qu'à l'époque, Delon sort d'un film, c'est le Parole de flic. Alors, il voulait que ce film, qui a eu beaucoup de succès, soit tourné au Minguette, un quartier de Vénissieux proche de Lyon, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Mais à l'époque, le maire a refusé en disant « On va encore mettre l'accent sur un quartier qui est calme et qui risque de bouger. Ben, » ouais. Aujourd'hui, il a beaucoup bougé.
Ouais.
Et on n'a pas parlé des Minguettes dans ce film, on les appelait les Magrettes.
D'accord.
Alors, donc, finalement, Delon décide de jouer le film, vous convoque, et il vous propose la mise en scène à l'essai.
Ouais.
Racontez-moi ça.
Donc, ambiance, il me dit, voilà, c'est facile de voir que vous êtes un grand auteur, il suffit de vous lire. Par contre, la mise en scène, les acteurs, alors je vois, vous faites du dessin animé, je vois que vous connaissez le langage, hein, les chants, contre-chants, tout le découpage de dessin animé d'un film, c'est la même chose. Mais les dessins vous obéissent très facilement, les acteurs, c'est autre chose. Et donc, il m'a dit, voilà, je vais vous donner 3 jours. Je vous propose ça. Je vous prends comme scénariste, on fait votre film, vous êtes engagé 3 jours pour réaliser. Et au bout de ces 3 jours, bah, si ça marche, on continue. Sinon, on prend un professionnel et on vous remplace. Est-ce que ça vous dit? Je lui dis, vous pensez que je vais vous dire non? C'est-à-dire, tourner, faire un court-métrage avec Alain Delon, vous pensez que je vais vous dire non? Donc, bien sûr. Et on s'est tapé dans la main là-dessus. Il me dit, attention René, au bout des 3 jours, si ça marche pas, vous êtes scénariste et on prend quelqu'un. Je dis, oui, bien sûr, bien sûr. Et sauf que moi, quand j'ai commencé à tourner, J'avais vraiment envie de continuer, quoi. Donc, au bout
vous aviez peur en même temps.
Bah oui, au bout du troisième. Et puis en plus, chaque fois que je faisais quelque chose, je me retournais, j'avais l'impression d'avoir un point rouge, vous savez, de sniper sur ce qu'il me regardait en train de faire, etc.
Et même l'équipe vous regardait.
Bien sûr.
Il y avait des paris sur vous, voilà. Est-ce qu'il tiendra ?
C'était son équipe. Ouais. En plus, donc avec des grands professionnels, mais en même temps, ils disaient, c'est qui le gamin là ? On m'appelait le gamin, hein, sur le plateau. J'avais 25 ans quand même. Et donc, par rapport à ça, le troisième jour. Alors là, je me disais, c'est terrible. Et sous le chapiteau, vous savez, on était sur la plage, on tournait la fin en plus, ce qui est quand même le plus difficile, tourner la fin alors que les gens ne se connaissent pas encore. Et donc, il a traversé le chapiteau, parce que je mangeais avec les techniciens, lui, il mangeait avec ses attachés de presse, il traverse le chapiteau et il me dit, il m'invite à sa table, devant tout le monde. Alors je me dis, bon, il m'invite et il va juste me dire, c'est terminé. Et donc, on mange. On est face à face, on déjeune, et à la fin du déjeuner, il me dit « Tant que je ne dis rien, c'est que ça va. » Donc, en fait, c'était dire que je pouvais faire le film, et donc j'ai continué à faire le film. Mais c'était sa façon à lui de me laisser sous pression.
Voilà, et la pression était née d'ailleurs, parce que le scénario, au départ, il vous dit « C'est un roman, c'est pas un scénario. »
C'est ça, il m'a dit, la première chose qu'il m'a dit, c'est « J'ai beaucoup aimé votre roman. » Et c'est vrai que l'autre jour, je suis tombé sur le scénario du passage, et en fait, même les parties descriptives sont décrites à l'imparfait. Ça fait vraiment comme un roman avec... C'est comme un roman, un croisement entre un roman et une pièce de théâtre. Vous savez, vous avez les dialogues, mais en même temps, tout est très, très lyrique, très, très romancé.
Et dans ce film, il y a une chanson qui, elle aussi, est devenue un succès. Car la chanson de Francis Lalanne, on se retrouvera, c'est un de ses classiques. Elle est née pour ce film.
Oui, c'est-à-dire qu'à la fin du film, comme c'est un mélo, hein, ce film, c'était quelque chose, vraiment une histoire d'amour. À la fin, je disais à Francis, si j'ai réussi mon coup, à la fin, les gens sont dans l'émotion. Et donc, moi, il me faut un point d'orgue. Je ne vais pas lâcher les gens avec le générique comme ça, si jamais ils sont en pleurs ou en larmes ou émus, tout simplement. Je veux les accompagner. Donc, tu vas m'écrire une chanson, tu racontes mon histoire, sauf que tu la racontes en 4 minutes. Et donc, il a écrit sur un coin de bar, genre dans l'après-midi, quoi. Il a écrit le passage et il est venu me le chanter avec sa guitare. Et à ce moment-là, j'ai dit, mais... c'est magnifique, c'est super. Il me dit, ah bon, tu trouves ? Je dis, bah oui, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Je vais l'enregistrer pour pouvoir monter dessus, etc. Donc j'enregistre, et après il part en tournée. Et là, la chanson se déforme complètement, c'est-à-dire qu'il revient de la tournée, et il me dit, écoute René, là, j'ai une super version, on va l'enregistrer, c'est génial comme ça, je vais te la faire écouter. Et il me fait écouter, et d'un coup c'est devenu un rock, c'était rien à voir avec ce que je voulais. Et j'ai dit, écoute Francis, moi ce qu'il me faut, c'est qu'on va l'enregistrer, mais si jamais tu me fais ça, cette chanson-là, ben j'utilise la maquette. Elle me dit, ah non René, la maquette, c'est un son pourri, machin, on peut pas faire ça. Je dis, ben c'est simple, si tu veux pas qu'on fasse ça, je viens en studio et je te dirige. Moi je veux juste ta voix blanche, je veux pas une voix de rocker, c'est pas Bruce Springsteen, là, il faut Francis. Donc, voix blanche. Et je l'ai fait chier en studio, je l'ai fait chier. Et il l'a fait vraiment pour moi, quoi, en y croyant pas une seconde. Et puis après, donc, le succès de la chanson, bon, c'est pas à cause de moi, hein, c'est grâce à lui.
Oui.
Parce que la chanson est sublime. Quoi.
Voilà, et le film a fait un gros succès aussi, 2,5 millions d'entrées. Et ça vous a posé des problèmes, on en reparle dans quelques instants à travers une autre date, le 4 mars 1992. A tout de suite sur Sud Radio avec René Manzor.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité René Manzor. Nous parlerons tout à l'heure de À Vif chez Calman Lévy, un thriller passionnant. Et une date passionnante pour vous, c'est le 4 mars 1992. Ce soir-là, la chaîne ABC aux États-Unis diffuse le premier épisode de cette série. Les aventures du jeune Indiana Jones qu'on a vu en France en 1994 sur TF1. Et il se trouve que deux épisodes sur les 36 de la série de 45 minutes sont réalisés par vous, René Manzor.
Ouais, c'était une très belle rencontre avec George Lucas, en fait, et avant même avec Kathleen Kennedy, qui était la productrice de Spielberg. Et donc, en fait, ils ont vu mes deux premiers films, Le Passage et 36-15 Code Père Noël, et c'est deux films, en fait, qui ont provoqué ma venue à Hollywood, notamment 36-15, que Spielberg a vu trois fois avec son fils. Et donc, ça a été, disons, un nouveau démarrage, un nouveau parrainage aussi, d'une certaine façon. Après Delon, c'était Spielberg.
C'est quand même pas mal. C'est-à-dire que, aux États-Unis, c'est quand même, à l'époque, c'est toujours les numéros 1.
Bah, surtout, la concurrence est très, très élevée là-bas, en fait. C'est comme dans un aquarium, il y a 15 requins, quoi.
Alors, 36-15 Père Noël, c'est un film qui est sorti en France et qui évoquait un outil totalement disparu aujourd'hui, qui était le Minitel.
Oui, absolument. C'était le top niveau technique à l'époque.
Et donc, vous qui étiez passionné de technologie, vous aviez tourné votre histoire autour du Minitel qui, à l'époque, d'ailleurs, avait été créé pour faire de la vente à domicile. C'était presque un ancêtre d'Amazon.
Oui, exactement.
Et ce film avait fait l'ouverture du Festival d'Avoriaz et vous aviez eu droit, je crois, à une ovation, une standing ovation de Ray Bradbury, qui est le maître de la science-fiction, et de Roman Polanski.
Oui, Ray Bradbury et Wes Craven aussi, trois qui étaient là. Et donc, pour moi, qui était débutant, c'était mon deuxième film, donc d'avoir ces maîtres un peu du film de genre qui se levait pour lancer la standing ovation, alors que je ne sortais pas en France, puisque je n'avais pas de distributeur du film.
C'est fou ça, pourquoi ?
Donc c'est tout ça un peu mon karma, c'est-à-dire la difficulté de travailler dans mon propre pays.
Oui, c'est parce que le film de Delon a été un succès, et paradoxalement, ça vous a fermé les portes, Tony Manzo.
Oui, parce que j'ai été estampillé commercial, ce qui était très mauvais à l'époque, disons, mal vu. Parce que, des gens comme Francis Weber pourraient vous en parler.
Oh oui.
Qui justement a souffert de ça aussi, alors que c'est une grande plume. C'était 3 ans de galère. Et au bout de 3 ans, Francis, encore, qui avait coproduit le passage. Et donc, qui avait généré, à travers le succès du passage, ce qu'on appelle le fonds de soutien, c'est-à-dire une aide à la production. Il m'a dit, mais pourquoi tu refais pas un film ? On va utiliser le soutien. Et dans ce cas-là, la seule chose, c'est qu'il faut que tu écrives un huis clos. Il ne faut pas que ça coûte des mille et des cents. Il faut qu'on essaye de faire le film avec ça. Et donc, j'ai écrit un huis clos à ma façon, qui est quand même un huis clos, effectivement, face à face entre le Père Noël et un enfant le soir de Noël.
Et ce qui a déclenché finalement, René Manzor, votre succès aux États-Unis, c'est qu'il y a un film qui est sorti qui est « Maman, j'ai raté l'avion ». Et qui est considéré comme un plagiat de ce film.
Ouais, c'est
Qu'est-ce
ça.
Qu'est-ce que c'est que ce soir ?
C'est ça. C'est-à-dire que un an après la sortie à Cannes de mon film, il y a ce remake caché en fait qui sort.
C'est exactement votre scénario.
C'est ce qu'ils auraient fait s'ils avaient fait un remake. Ils m'auraient dit c'est trop noir parce que le film c'est un thriller, donc il est sombre. Et ils ont fait une comédie familiale avec le même thème qui est finalement un gamin qui défend sa maison avec ses jouets contre un envahisseur. Alors moi c'était le Père Noël et eux c'était des pieds nickelés qui arrivaient, mais c'est le même principe avec la mère qui essaye de rentrer. Et ça, en fait, au lieu d'être un obstacle, ça a été un tremplin pour moi. Parce que les gens voyaient le copyright, ils ont compris que c'était finalement ma version était antérieure. Et donc, ils m'ont engagé pour écrire des high concepts. C'est-à-dire en se disant, il va nous écrire d'autres succès commerciaux.
Voilà.
Et là, le commercial n'était pas un problème à ce moment-là, c'est l'inverse.
Oui, parce que le plagiat, il y aurait pu y avoir un procès, des dizaines de pages dans les journaux. Il n'y a rien eu, ça s'est passé.
Il y a eu. Mon agent a essayé de faire quelque chose à l'époque. Et c'est Spielberg qui m'a conseillé de ne pas engager de poursuite à l'époque, en me disant que lui était constamment attaqué aussi comme ça et que c'était pas une bonne façon de rentrer en ville que de commencer par attaquer la ville, quoi.
Voilà. Alors il se trouve que Maman, j'ai raté l'avion, c'est le meilleur ratio coût chiffre d'affaires de tous les temps. Le film a coûté 15 millions de dollars et en a rapporté 533 dans le monde.
Ouais.
C'est quand même fou, alors que finalement, on ne sait pas qu'à l'origine, c'est votre idée.
Non, on ne sait pas, mais il y a toujours un moment où les choses se retournent. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai récupéré les droits de 3615 Code Père Noël quand d'un coup le mandat de celui qui en avait mandat s'est terminé. Et c'était TF1 à l'époque, j'ai été les voir et je leur dis voilà, je ne vais pas renouveler le mandat, mais on va s'associer, on va essayer de sortir le film. Je veux le sortir en 2K, je veux faire une remasterisation. Et ils m'ont dit, ouais, très bien, on va le sortir chez TF1 Vidéo. Je dis non, je veux le sortir dans un petit label de genre, des gens qui savent travailler le film de genre, vous ne savez pas. Et donc, on a fait cette opération. Le film s'est vendu comme des petits pains. Il est sorti en même temps en Allemagne et en France. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a attiré l'attention des États-Unis, qui connaissaient forcément l'existence du film mieux que nous, d'ailleurs. Oui. Et donc, j'ai été invité à Austin, au Texas, pour présenter le film comme une première mondiale. Et à ce moment-là, dans la salle. Moi, j'y suis allé reculons, hein, je vous dis, parce que le film avait 30 ans. Je me dis, les mômes, aujourd'hui, même si c'est un film de genre, ils vont siffler, ils vont dire, c'est quoi ce film, etc. La salle était pleine. Les gens, ils ont vécu le film comme si c'était The Horror Picture Show, you know, avec les gens qui se lèvent, qui commentent pendant le truc. Donc, c'était énorme. Et le lendemain, il y avait une... Alors, je me suis dit, c'était à minuit, la séance. Je me dis, bon, ils étaient tous déchirés, ils avaient bu, parce que j'arrivais pas à croire que 30 ans après, ça puisse fonctionner comme ça. Et le lendemain, il y avait une séance à 5 heures, donc genre familiale. Et quand je suis arrivé, il y avait... l'extérieur de la salle était plein. Je dis, mais ça pas comment ça va, ça ils rentrent pas, les gens. Il dit, ben les gens, ils sont rentrés. En fait, il y avait une autre salle qui n'avait pas pu rentrer dans la salle, tellement le bouche à oreille avait déjà fonctionné. Et donc après, il y a un distributeur qui était là, qui avait les yeux dollars là, parce que d'un coup il a vu que ça fonctionnait. Il a pris le film et on est sorti aux États-Unis l'année suivante à Noël dans 40 salles. Imaginez un film français sous-titré qui a 30 ans qui sort aux États-Unis dans 40 salles. Et ça s'arrête pas là. Derrière, il y a Shudder, qui est la plateforme de films de genre, l'équivalent de Netflix du genre, qui prend le film et qui le sort aux États-Unis, en Angleterre, en Australie. Et c'est pas fini. Après, il y a un label vidéo qui s'appelle Vintage Syndrome, qui veut sortir le film et qui remasterise le film. Nous, on l'avait fait en 2K. Eux, ils veulent le remasteriser en 4K. Et ils le sortent en 4K. Donc, vous voyez, le film, il a eu une deuxième carrière, en fait. Voilà.
Et il continue aujourd'hui cette carrière.
Absolument. C'est devenu un Christmas classic là-bas.
Alors, j'en reviens à Spielberg et Lucas, car vous avez réalisé donc deux épisodes de la jeunesse d'Indiana Jones. En fait, Indiana Jones jeune se baladait dans l'espace-temps, et vous êtes à Verdun au temps de la Première Guerre mondiale, où d'ailleurs vous reconstituez une bataille à Prague, et ensuite dans l'univers de Picasso.
Oui, c'était complètement deux univers différents. Et en fait, ce que faisait George Lucas, c'était qu'en fait, il voulait se servir de cette série pour apprendre l'histoire aux petits Américains. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas que leur histoire, mais celle du monde entier. Et donc, Indiana Jones, c'était comme un guide, en fait. Il rencontrait tous les grands de ce monde. Il y a un épisode où il rencontre Picasso, donc celui que j'ai fait. Un autre, il rencontre Laurence d'Arabie, enfin, Général de Gaulle. Enfin bon, il rencontrait comme ça tous les grands personnages. Et c'était tourné à... Moi, j'ai tourné à Prague. Et donc, reconstitution. Et une équipe formidable, faite à la fois de locaux à Prague et d'anglais, qui étaient les cadres, en fait, de l'équipe. Et c'était la même équipe qui faisait tous les longs... Il n'y avait que des réalisateurs de longs métrages. Et je me retrouve encore le gamin. On m'appelle The Kid, sur le plateau. Et il y avait Nicholas Roeg, il y avait Billy Auguste, Palme d'Or à Cannes, il y avait Simon Windsor, il y avait Carl Schultz, il n'y avait que des grands metteurs en scène. Et quand je suis arrivé, je vois le producteur, Rick McCallum, et je lui dis, et il me voit pâlir. Il me dit, qu'est-ce que t'as, René? Je dis, bah regarde la liste des réalisateurs, je les connaissais tous, il n'y a pas une erreur sur la liste. Et il me dit, qui a fait cette liste, René? Je dis, ben, George Lucas, ok? Et si George te fait confiance, tu penses pas que tu peux te faire confiance aussi? Et en me disant ça, il m'a donné des ailes, quoi. Je me suis éclaté après. Et oui. C'est ça un producteur aussi, c'est quelqu'un qui sait vous encourager et qui fait un peu pour vous le métier que vous faites pour les comédiens quand vous les dirigez, vous les mettez en valeur. Ben, le producteur, il doit mettre en valeur son metteur en scène et lui donner la force.
Ce que George Lucas a fait d'ailleurs, alors il vous a appris une chose très importante qu'on connaît peu au cinéma, c'est la notion d'attention relative du spectateur, René Manzor. Qu'est-ce que c'est ?
Oui, c'est-à-dire qu'il dit, quand on est dans une salle de cinéma, c'est sombre, on écoute, on est comme dans une église. Je veux dire, on perçoit tout du film. Quand on regarde un film à la télé, il y a des tas de choses qui se passent autour, le téléphone sonne, les gens préparent à manger, donc il y a une attention relative. Et donc il faut répéter les choses. C'est-à-dire que même si vous les dites une fois, il faut pouvoir les répéter au cas où on n'est pas compris pour certains éléments clés de l'histoire, pas pour tout.
Et on sait aussi peu que George Lucas, au départ, était fan de Flash Gordon. Ouais. Il voulait acheter les droits de cette série. Alain Resnais les avait à refuser de lui vendre, ce qui fait qu'il a écrit une série originale qui est devenue Star Wars.
Oui, c'est ça. Et le générique est le même que celui de Flash Gordon, avec les titres qui passent en perspective.
Exactement.
Comme ça.
Alors, vous revenez en France ensuite, René Manzor, et il y a un film avec deux stars qui se retrouvent chez vous après une rencontre historique.
On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue.
Moment mythique du Festival de Cannes, il n'y en a pas beaucoup, mais celui-là, il est mythique, avec Vanessa Paradis qui apparaît sur scène et qui chante Le Tourbillon à Jeanne Moreau, présidente du jury en 1995. Et deux ans plus tard, vous les réunissez dans un film qui s'appelle Un amour de sorcière.
Oui, c'était un grand producteur, Christian Fechner, qui est venu me trouver. J'étais à Hollywood à l'époque et il voulait que j'écrive un film en anglais pour Vanessa Paradis, avec laquelle il avait déjà travaillé et qu'il manageait d'une certaine façon, un peu à la manière dont les studios manageaient leurs stars à l'époque. Et donc, il m'a dit, je voudrais faire un film en anglais pour Vanessa. Et donc, en gros, je lui ai dit, ça serait quoi le film ? Et il me dit, voilà, c'est un Américain qui tombe amoureux d'une Française. Je lui dis, c'est tout ? Elle me dit, oui, le reste, ça va être vous, René. Et donc, j'ai eu une espèce de carte blanche. Et à ce moment-là, je lui dis, écoutez, moi, je dois voir les films de Vanessa. Parce que je vois la chanteuse, je connais la chanteuse. Par contre, je ne sais pas comment elle joue et j'ai besoin de ressentir quelque chose. Donc, il m'a organisé une projection de son premier film, Noce Blanche, je crois, oui. Et Elisa, le film de Becker. Et donc, j'ai vu les deux films l'un à la suite de l'autre. Et quand je suis sorti, je me dis, cette fille, c'est une fée.
Oui.
Et comme je me suis dit, ses filles, c'est une fée, je suis allé le voir et je fais, ok, c'est un Américain qui tombe amoureux d'une Française, mais la Française, c'est une sorcière. Voilà. Et voilà, donc voilà, c'est parti comme ça.
Et il y avait beaucoup de magie parce qu'en plus, on le sait peu, Christian Fechner, qui a été au départ le producteur d'Antoine, des Charlots, c'était un passionné de magie.
Ah ben, non seulement passionné, mais il fabriquait des tours. C'est lui qui faisait les tours de David Copperfield. Donc, des tours inédits. Et donc, quand je lui ai proposé ça, je savais que, quelque part, la magie, c'était son domaine. Et on avait en commun une passion pour Méliès, qui était aussi un disciple de Robert Houdin, etc. Et donc, je lui ai dit, c'est simple, vous allez être le superviseur d'effets spéciaux dans ce film. Et le pari de ce film, alors qu'on était à l'ère du numérique, c'est que tout ce qu'on ne peut pas faire... On ne fera en numérique que ce qu'on ne peut pas faire. Et en fait, 99% des trucages en amour du sorcière sont faits en direct par des magiciens. On avait réuni la troupe de magiciens la plus incroyable du monde.
Et ben voilà. Et la magie continue, mais dans les librairies. On en parle dans quelques instants à travers une autre date, le 17 mars 2021. À tout de suite sur Sud Radio avec René Manzor.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité René Manzor. On a parlé de votre parcours en France, aux États-Unis avec George Lucas et Spielberg. Et puis il y a le romancier qui vient de sortir le 17 mars 21, son cinquième roman, À Vif, un thriller dans la tradition du genre, comme on en fait aux États-Unis, parce que il se passe quelque chose toujours de la première à la 410e page, non ?
Oui, c'est le principe du page-turner, en fait, hein, le fait de ne pas lâcher le lecteur, de faire en sorte qu'il ne dorme pas et qu'il continue de lire l'histoire.
Alors, l'histoire, c'est des jeunes filles qui sont brûlées sur un bûcher. Le coupable est un immoleur qu'on recherche depuis des années.
Oui, quelqu'un qui a commis des crimes dans un village, dans une région spécifique en France, en Occitanie, et qui n'a jamais été arrêté. Et donc, il y a eu surtout un flic qui s'est occupé de cette affaire et c'est devenu une telle affaire personnelle pour lui, une telle obsession, qu'il a fini par faire un burn-out et qu'il a développé en plus un syndrome assez peu connu, qui est le syndrome obsessionnel délirant, le trouble obsessionnel délirant, qui fait qu'on confond finalement la réalité avec ce qu'on imagine.
Qu'est-ce que c'est que ce trouble obsessionnel délirant ? C'est courant ?
On en connaît des variantes, par exemple l'érotomanie, quelqu'un qui va être persuadé que vous êtes amoureux de lui. Et tous les signes que vous donnerez dans le sens inverse seront vus comme des signes qui confirment ceux auxquels il croit. Ou quelqu'un qui est persuadé, après une opération, qu'on a laissé un bistouri à l'intérieur de son corps. Alors on a beau faire des radios, des scanners pour lui expliquer, non, il n'y a rien. Il garde sa version des faits. Et donc, c'est l'obsession qui transforme complètement la vision de la réalité.
Donc, c'est le point de départ pour vous, René Manzor, de cette histoire À Vif. Comment est venue cette idée ? Comment en êtes-vous venu vous intéresser à ces troubles obsessionnels délirants ?
Je me suis dit que si jamais quelqu'un qui était... Si un enquêteur était atteint de ce trouble, ça poserait un sérieux problème parce que la police, en attendant d'avoir des faits, fonctionne par intuition. Et si on ne peut pas faire confiance à son intuition, si elle vous joue des tours, comment découvrir la vérité ?
Et effectivement, vous avez mené une enquête chez des psychiatres. D'ailleurs, vous avez connu déjà le monde de la psychiatrie avec un autre film, je crois, qui s'appelait Dédale, avec Sylvie Testu et avec Lambert Wilson.
Oui, c'était un film aussi qui a eu, disons, une importance. Il y a eu même des tentatives de remake aux États-Unis parce que justement, ce symptôme, c'était le symptôme de personnalité multiple. Et c'était un peu la première fois à l'écran en fait, qu'on abordait ce thème de cette façon, de façon presque clinique.
Et pourquoi avoir justement choisi ce thème? Qu'est-ce qui vous intéressait? Qu'est-ce qui vous a aiguillé vers ce thème?
Vers Avif, vous voulez
vers
dire
Vers Avif, oui.
Avif, c'était, si vous voulez, l'envie de retremper ma plume dans un trouble psychiatrique, car pour moi, c'est les gens qui sont le plus proche de la fiction. C'est-à-dire qu'ils sont en rupture avec la vision de la réalité, et donc ce sont des énigmes ambulantes. Et le principe des thrillers, c'est justement d'être une énigme, un labyrinthe, quelque chose dont on n'arrive pas vraiment à sortir.
Oui, surtout que ça laisse des cicatrices morales et physiques.
Oui, et puis là, si vous voulez, le principe, c'est au début, on commence une action de manière classique, comme ça on rassure le lecteur, et ça se passe comme dans un labyrinthe. On rentre et on se dit, bon, c'est facile, je vais tourner à gauche, je vais tourner à droite, je m'en souviendrai. Plus on avance, moins on se souvient, et plus l'histoire devient compliquée. Et donc là, c'est pareil, ça commence comme une histoire, comme un thriller, avec les codes, et puis plus on avance, plus le lecteur se dit, oh là là, non, ça va pas être aussi simple que ça, voilà.
Et je précise, sans dire qui est le coupable, que le coupable, on le découvre à la dernière page, à l'avant-dernière page.
C'est ça.
C'est-à-dire, ça veut dire un travail considérable pour arriver à ça.
Oui, mais là, c'est là où mes 10 ans de travail aux États-Unis payent. Parce qu'en fait, j'étais là-bas, j'ai été script doctor. En fait, hein, c'est quelqu'un qu'on appelle pour résoudre des problèmes dans les histoires. J'ai travaillé énormément la narration. Et aujourd'hui, en fait, je peux vraiment donner libre cours à mon imagination en ayant des bases extrêmement solides. Du reste, d'ailleurs, je fais des séances de coaching d'auteur en ce moment.
Alors, il se trouve qu'il y a un autre personnage qui arrive, une femme, une capitaine de police qui s'appelle Julie Frest dans ce livre, qui va donc assurer la relève de l'inspecteur Novak. Et cette femme, c'est une femme comme tout le monde, c'est-à-dire que ça aussi, c'est rare dans un thriller. Elle a une vie de femme avec des enfants en plein divorce.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est le pendant, l'opposé de Novak, qui lui est bouffé par sa vie professionnelle et qui n'a pas de vie affective, vie personnelle. Elle a des enfants, elle a le même grade que lui, mais c'est une version beaucoup plus normale d'un personnage d'enquêtrice. Et donc, si vous voulez, c'est un personnage référent pour le lecteur. Il peut s'accrocher à quelqu'un qui a une vision pragmatique des choses. Et donc, le roman avance comme ça avec ces deux personnages, et en permanence, on a une version de la réalité et on a une version fantasmée de la réalité, et on se dit lequel a raison. On arrive rapidement à ne plus savoir vraiment qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, et on avance comme ça. Donc on est soi-même victime de ce trouble obsessionnel délirant.
Oui, d'ailleurs vous-même vous avez eu des troubles dans votre enfance, René Manzor. Vous pensiez que la vie n'était qu'un rêve.
Oui. C'est quoi, on rentre en psychiatrie là?
Non, c'est la réalité.
Non, oui, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai, oui, longtemps, je dis ça à la fin du livre. Oui. J'ai une page comme ça. Je me suis dit au moment des remerciements que j'allais remercier finalement les mêmes personnes. Après quatre, c'est mon cinquième roman, et donc j'avais remercié un peu tous les gens qui m'avaient aidé dans ce parcours littéraire, notamment Philippe Robinet, le président de Calman, et Caroline Lépée, qui était ma première éditrice aux éditions Lépée. Et donc, si vous voulez, je me suis dit, il faut que je donne un peu de moi au lecteur. Et après avoir fait ce parcours, je lui ai dit, voilà, je vais me livrer là-dessus. Mais je ne vais peut-être pas en parler, comme ça ils liront eux-mêmes de quoi il s'agit. C'est une note de l'auteur.
Et c'est vrai que ça a troublé votre enfance.
Ouais, troublé, pas au sens traumatisé.
Ouais.
Mais en tout cas, ça m'a fait voir la réalité différemment, oui.
Alors, cette histoire donc, qui est très dure se passe dans un village qui n'existe pas, parce que je l'ai cherché sur la carte, il n'existe pas.
Non.
Mais près de Toulouse, qu'on connaît bien à Sud Radio.
Oui,
pourquoi
en fait,
cette région?
C'est la région, disons, c'est un peu loin de Toulouse, c'est genre à 1h30 de Toulouse, oui. Hein, vers l'est. Disons, c'est une région qui m'a fasciné pendant que je faisais les repérages d'un amour de sorcière pour faire le voyage de l'héroïne. Et il y a des endroits, notamment, qui sont des villages un peu médiévaux sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui sont encore ancrés dans le passé. Et ça me semblait intéressant, justement, que l'énigme, le mystère qu'on traverse à travers ce roman puisse trouver sa source dans le passé très lointain.
Oui, surtout que c'est un village à l'ancienne où chacun a un secret qu'il n'ose pas dévoiler. Ça aussi, c'est une recette du thriller.
Oui, parce que en fait, le secret, le principe du secret, le mystère, sont à la base même du thriller. Mais ce qui m'a intéressé dans celui-là, ce que j'ai toujours trouvé que dans les polars ou dans les thrillers, on s'intéressait rarement aux victimes, aux parents des victimes. C'était toujours l'enquêteur et le méchant, si vous voulez. Il y a une espèce de duel entre eux. Et là, j'ai voulu consacrer presque la moitié de la ligne narrative à ce qui se passe finalement dans la famille de la personne qui a été tuée. Que devient le couple quand on perd un enfant comme ça, comment ça se passe? Quels sont les effets secondaires? Vous savez, les tremblements de terre font des victimes, mais les répliques aussi.
Oui, alors ça veut dire aussi construire petit à petit. Alors je ne sais pas comment on fait pour construire un thriller, mais ça veut dire partir sur une piste, changer et se surprendre. Il faut que même vous-même vous soyez surpris de ce que vous écriviez.
C'est les personnages en fait qui s'en chargent, parce qu'en fait moi au départ je fais un plan assez précis de mon histoire, je travaille beaucoup sur la structure et je ne commence à écrire que quand je connais l'ensemble du roman. Mais au cours du roman, parce que les personnages ont leur propre existence que vous leur avez donnée, il faut leur donner ce que moi j'appelle un droit de retrait, comme pour les fonctionnaires, c'est-à-dire quelque chose où ils vont refuser de faire certaines choses que vous voulez leur faire parce que quelque part ça va contre la psychologie que vous avez mis en place. Et donc c'est ces moments où les personnages finalement refusent l'intrigue que vous créez des moments inattendus, y compris pour vous.
Et il y a quand même une allusion à l'enfance à travers un film culte que vous évoquez. Judy Garland dans Vers de Rainbow, vous en parlez dans le film, il se trouve que des dizaines d'artistes ont repris cette chanson et que vous connaissez l'histoire. Au départ, le producteur Victor Fleming a dû se battre parce que personne ne voulait cette chanson alors qu'elle a eu l'Oscar de la meilleure chanson originale en 1940.
C'est souvent ça.
Hein. Vous avez connu le problème.
Bien sûr, oui.
Et pourquoi cette chanson au milieu de l'histoire ?
C'est pas la chanson en fait, c'était plus le conte en fait parce que finalement il y a dans cette histoire il y a un personnage qui est en paille et donc à un moment donné il y a le père de la victime qui lit cette histoire à son fils qui est le frère de la victime, le petit garçon. Et à ce moment-là, le petit garçon il dit pourquoi il a peur des allumettes ? Pourquoi le personnage dit qu'il a peur des allumettes ? Et à ce moment-là, son frère voit le père pâlir parce qu'il pense à ce qui est arrivé à sa fille qui a été brûlée. Et à ce moment-là, il lui dit « Bon, on continuera l'histoire demain matin ».
Et le thriller est une spécialité américaine en général. René Manzor, on en voit partout en France pour l'été. Vous êtes l'un des rares aujourd'hui à faire des thrillers américains en France.
Ben pour moi, ce n'est pas américain, parce que mais si vous voulez, c'est ce que j'ai eu envie de faire. La forme, je comprends ce que vous voulez dire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est aussi influencé par les années de travail. Et là, effectivement, 10 ans de travail, là-bas, forcément, ça laisse des traces. Mais pour moi, l'envie d'écrire des romans, c'était une envie de France. C'était une envie justement de pouvoir m'exprimer dans ma langue, qui n'est pas maternelle d'ailleurs puisque c'est l'espagnol, mais dans ma langue, la langue où j'étais né. Et à force de m'exprimer en anglais, j'avais vraiment une envie de français, auprès de son arbre en fait. C'est l'idée de revenir et de travailler, de raconter des histoires. C'était mon nouveau challenge. Raconter des histoires, oui, mais sans images, avec les mots comme seul bagage.
Et ça fait 5 romans, puisque même le deuxième, je crois, a eu un prix à Cognac, un prix du polar. C'est une carrière à côté du cinéma. C'est devenu une habitude, une tradition.
Oui, mais je me considère comme un raconteur d'histoire, un storyteller, comme disent les Américains. C'est-à-dire que le médium, pour moi, importe moins que l'histoire que je raconte. Donc, quand je fais des séries télé, par exemple, je raconte une histoire. Quand j'écris des romans, je raconte une histoire. J'ai monté des spectacles au théâtre, je racontais une histoire. Et au cinéma, je racontais des histoires.
Et d'ailleurs, votre palette était variée parce que, effectivement, il y a des épisodes de Mongeville, de Julie Lescaut, du Sang de la Vigne. Ben, c'est vous qui les réalisez et on n'en parle pas beaucoup en France, René Manzor.
J'ai mis au service des diffuseurs, France 3, TF1, j'ai mis mon sens de la narration et donc j'ai fait comme on fait aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a une ligne éditoriale dans les chaînes ou dans les studios et donc moi je faisais. Je savais ce qu'était. J'étudiais la ligne éditoriale de la chaîne et je travaillais sur les séries de ces chaînes-là, comme j'ai fait avec France Télévisions sur les meurtres A aussi. Et si vous voulez, il y a le savoir-faire et il y a le savoir-dire. Et mon savoir-dire, je le réserve au roman.
Voilà. Et il y a une série l'an dernier qui a eu un certain succès, c'était Maddy et Cheban, le premier film avec Christiane Arréali, c'était vous aussi, oui. Et il y aura peut-être une suite.
Ben, en fait, le producteur est un type formidable, qui s'appelle François Aramburu, avec lequel vraiment j'ai développé une relation artistique sur ce projet, comme j'en avais aux États-Unis, c'est-à-dire un partenariat. Moi, je cherche toujours le partenariat avec le producteur, c'est-à-dire un échange, hein. On est sur un tandem. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Moi, j'ai le guidon, hein, parce que c'est director, c'est celui qui donne la direction, mais le producteur, il est sur le même tandem que moi et il pédale aussi fort. Et c'est difficile d'avoir ce rapport-là avec des producteurs en France. Je l'ai eu aux États-Unis très fort et je cherche et je trouverai.
Voilà. Mais vous êtes un cas à part dans le monde du cinéma ou de la télévision en France, finalement, René Manzor.
Pourquoi à part ?
Bah parce qu'il y a peu de gens qui raisonnent comme vous, avec l'expérience des États-Unis.
Oui, mais si vous voulez, à la limite, je me considère pas, je me considère plus handicapé par ça que aidé par ça.
Oui, mais en même temps, un handicap qui vous permet de continuer à travailler comme vous le voulez.
À m'exprimer, oui, tant que je pourrais, oui, absolument.
Entre la télévision, les romans et peut-être un jour le cinéma à nouveau.
Peut-être, mais il faut un producteur pour ça. Hein, je cherche mon producteur.
Bon, en tout cas, ne cherchez pas si vous avez envie de lire un livre. Choisissez « À vif » de René Manzor chez Kalman Lévy. Je peux vous assurer que vous ne le lâcherez pas jusqu'à la dernière seconde. Merci René Manzor de vous être raconté dans la clé d'une vie et puis continuez comme ça, à votre façon.
Merci Jacques Fessy pour ce voyage à travers le temps. Formidable, merci.
Merci, les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.